C'est une assez longue lecture, donc on va la faire en deux temps. On va lire une première partie, chanter ensuite un chant pour nous préparer encore au message et puis finir la lecture tout à l'heure. Mais donc, on va commencer cette lecture dans l'Exode au chapitre 13, à partir du verset 17. Exode 13, verset 17. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert vers la mer des joncs. Les Israélites montèrent tout équipés hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, certes, Dieu vous visitera et vous fera remonter mes ossements avec vous loin d'ici. Donc rappelez-vous, c'est Joseph qui était descendu le premier en Égypte. C'était le premier Israélite à être en Égypte et il avait fait jurer à ses enfants de remonter ses ossements jusque dans la terre promise lorsqu'il partirait. Verset 20. Ils partirent de Soukhot et campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pardon, pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, ils se sont égarés dans le pays, le désert s'est refermé sur eux. J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra. Mais je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. Et c'est ce qu'ils firent. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les sentiments du Pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël dont nous n'aurons plus les services? Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Sur tous, il y avait des équipages de 3 hommes. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Les Israélites étaient sortis librement. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que tu nous as amenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert? Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte. Restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je vais m'arrêter ici pour le moment, faire une pause. On reprendra la lecture tout à l'heure. Je vous invite à chanter un chant qui est une prière pour nous préparer au message. Pour nous qui restons, vous pouvez reprendre la Bible et l'ouvrir reprendre la lecture à partir de Exode 14, à partir du verset 15. Et on va lire jusqu'au début du chapitre 15. On lira encore quelques versets au chapitre 15. L'Éternel dit à Moïse, Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent derrière eux. Je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'aurai été glorifié par le moyen du Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Elle se rendit entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle était nuée pour les uns et ténèbres pour les autres, et elle éclairait la nuit. Ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec, et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Pendant la veille du matin, l'Éternel regarda de la colonne de feu et de nuée le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il écarta les roues de leurs chars et en alourdit la marche. Les Égyptiens dirent alors « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer. À l'approche du matin, la mer revint à son niveau habituel. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les chevaliers et toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer derrière les Israélites, et il n'en resta pas un seul. Mais les Israélites marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel. Ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alors, Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent « Je chanterai à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. Il est devenu mon salut. Il est mon Dieu. Je veux lui rendre hommage. Il est le Dieu de mon père. Je l'exalterai. L'Éternel est un guerrier. L'Éternel est son nom. Il a précipité dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses équipages d'élite ont été submergés par la mer des joncs. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus dans les profondeurs comme une pierre. » Et je vais m'arrêter ici dans cette lecture. On pourrait lire tout le cantique, mais ça deviendrait vraiment long, donc je vais m'arrêter ici. Je vous invite à prier encore. Prions. Éternel, nous te louons pour tous les bienfaits qui nous viennent de ta main, pour le beau temps que tu nous donnes, la nourriture, le toit, tous ces bienfaits matériels qui nous viennent de toi. Mais nous te remercions par-dessus tout pour ta parole qui nous nourrit spirituellement. Et Seigneur, nous en avons tellement besoin. Et nous te prions alors ce matin, Seigneur, de nous parler à chacun d'entre nous. Seigneur, donne-nous d'être attentifs, d'avoir une soif, une vraie faim aussi pour ta parole. Et que ton esprit l'applique à nos cœurs comme nous en avons besoin en ce moment, dans le nom de Jésus. Amen. Cet événement de l'Exode, donc cette traversée de la mer, cette sortie d'Égypte, c'est certainement l'événement le plus cité dans l'Ancien Testament. Vous pouvez regarder dans les prophètes, dans les psaumes, On retrouve plus d'une centaine, plusieurs centaines même, d'allusions indirectes à l'Exode et plusieurs dizaines de références directes. Je vous donne juste un exemple dans le livre du prophète Ésaïe, lorsque, après avoir envoyé Israël en exil à cause de leur révolte contre lui, Dieu promet qu'il ramènera un reste fidèle de son peuple dans la terre promise. Et voilà ce qu'il dit. Ainsi parle l'Éternel, qui trace une route dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes, qui se réfère à l'Exode, bien sûr. Je mettrai un chemin dans le désert. Ésaïe 43. Alors on voit très bien que pour le prophète Ésaïe, l'Exode, c'est comme un modèle, un paradigme du grand salut que Dieu est en train d'accomplir en ramenant son peuple de l'exil de Babylone jusqu'à Jérusalem, en leur traçant un chemin dans le désert. Et c'est pareil dans le Nouveau Testament, plusieurs auteurs font le lien entre l'Exode et l'œuvre de Jésus-Christ. Matthieu, alors qu'il est en train de réfléchir et que il réfléchit au fait qu'après sa naissance, Joseph et Marie ont dû fuir en Égypte pour protéger Jésus jusqu'à la mort de Hérode. Matthieu dit ceci au sujet de Jésus, il dit: J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, c'est pas Matthieu qui dit ça, c'est Dieu. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est une citation du prophète Osée, chapitre 11, qui est une allusion à l'Exode, où le fils en question, c'est le peuple d'Israël que Dieu a appelé hors d'Égypte. Donc on voit Matthieu qui fait un lien direct entre la sortie du peuple d'Israël et Jésus-Christ. Et c'est pareil pour Luc. Vous vous rappelez peut-être lorsque Luc nous parle de la transfiguration, Élie et Moïse apparaissent à Jésus et ils se mettent à discuter ensemble et ils s'entretiennent, Luc nous dit, du départ de Jésus qui allait s'accomplir à Jérusalem, Luc 9, en référence bien sûr à la mort de Jésus à Jérusalem, à la croix et à sa résurrection. Mais ce qui est frappant, c'est que le mot grec qui est utilisé ici par Luc pour parler du départ de Jésus, c'est l'Exode. Exodos en grec. C'est un indice flagrant que pour Luc, ce que Jésus va accomplir à Jérusalem par sa mort et sa résurrection, c'est ce que l'Exode d'Israël préfigurait depuis le début. C'est l'Exode ultime. Si vous voulez. Et puis on avance dans le Nouveau Testament, on arrive à Hébreux chapitre 3 et 4 et on apprend que Jésus est supérieur à Moïse. Bien des manières, mais en particulier parce que presque tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse sont morts dans le désert, sans connaître le repos de la terre promise, alors que tous ceux qui sont à la suite de Jésus connaissent déjà, dès maintenant, le repos de Dieu. Mais ce que ça nous montre, c'est que Moïse, là encore, pointe vers Jésus. Et puis, on peut encore penser à un dernier passage qui est probablement le plus important, 1 Corinthiens 10. Où Paul fait cette remarque qui est un peu étrange, difficile à comprendre. Il dit que les Israélites qui sont passés au travers de la mer Rouge ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont été baptisés. Et Paul ajoute à peine plus loin que tout ça, donc la traversée de la mer Rouge, le pèlerinage dans le désert et tout ça, cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir. C'est pour nous. Vous voyez, s'il y a un passage de l'Ancien Testament que le Nouveau Testament nous invite à lire de manière christocentrique, centrée sur Christ, c'est-à-dire à voir comme un modèle, comme un paradigme du salut accompli par Jésus-Christ, c'est bien celui-là. Okay? On doit le lire de cette manière-là. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va réfléchir quelques instants à ce que Dieu nous dit à nous par ce récit de la traversée de la mer Rouge. Vous vous rappelez peut-être juste que la dernière fois, on avait vu l'institution de la Pâque, et je vous avais dit qu'il y a un mot qui est utilisé plus d'une centaine de fois dans le livre de l'Exode, qui est utilisé pour la toute première fois en lien avec la Pâque, c'est le mot communauté. Dieu envoie Moïse et Aaron parler à la communauté d'Israël et leur dire de prendre un agneau, de le sacrifier, de mettre son sang sous la porte, etc. Mais ce que ça nous avait indiqué, c'est que les Hébreux, pour la première fois lors de la Pâque, sont plus considérés comme un simple groupe ethnique, mais ils sont un peuple. Une communauté, Eda en hébreu, ce qui se traduit par ecclésia dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, ce qui donne l'Église, hein, mais ce qui veut dire littéralement ceux qui sont appelés hors d'eux. C'est ça littéralement, ecclésia, ceux qui sont appelés hors de l'esclavage en Égypte. Mais comme je viens de vous le montrer, cette sortie de l'esclavage en Égypte, c'est un paradigme, c'est un modèle de notre rédemption, de notre salut accompli par Christ. Et donc j'aurai deux parties ce matin. Tout d'abord, on va réfléchir à l'esclavage hors duquel Dieu nous a appelés par grâce. Et puis deuxièmement, on va réfléchir à la grâce par laquelle Dieu nous a appelés hors de l'esclavage. Tout d'abord, l'esclavage hors duquel Dieu nous a appelés par grâce. Je ne sais pas quelle impression vous avez eue à la lecture de ces versets tout à l'heure. À quoi vous avez eu l'impression d'assister quand j'ai fait cette longue lecture? Moi, j'ai l'impression qu'on assiste un peu à une partie d'échecs. Je ne sais pas si vous arrivez de jouer aux échecs. Moi, j'ai installé un jeu d'échecs sur mon téléphone, donc il m'arrive d'y jouer quand j'ai vraiment plus rien à faire, que je m'ennuie. Mais je suis tellement mauvais que très rapidement, je perds toutes les pièces maîtresses. Donc, je perds la reine, je perds les tours, les fous, etc., etc. Et je me retrouve avec pratiquement plus aucune autre pièce que le roi. Mais vous savez comme moi que c'est pas encore la fin de la partie. La partie, elle se termine quand? La partie, elle se termine quand le roi est échec et mat. Hein? C'est ça la fin de la partie. Et on a l'impression ici d'assister à une partie d'échec entre Dieu et le Pharaon. Rappelez-vous que le Pharaon, c'est l'anti-Dieu, c'est l'antichrist même. Parce qu'il cherche par tous les moyens à asservir, à mettre à mort la lignée par laquelle doit venir le Christ, le Messie. Donc on a ce combat entre Dieu et le Pharaon qui représente tout ce qui s'oppose à Dieu, toutes les forces du mal qui s'opposent à Dieu. Dieu a pris toutes les pièces du Pharaon. Il a même pris son fils premier-né, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Mais le pharaon n'est pas encore échec et mat. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans ce passage. Son pouvoir de domination, d'asservissement sur le peuple d'Israël n'a pas encore été brisé. Et du coup, c'est comme si Dieu déplace ses pièces sur l'échiquier. Il amène le peuple d'Israël. Il lui fait faire un détour, il l'amène au bord de la mer Rouge, dans ce qui semble être une impasse, et il dit au verset 3, regardez, chapitre 14, verset 3, le Pharaon dira des Israélites, ils sont égarés dans le pays, le désert s'est refermé sur eux, j'endurcirai le cœur du Pharaon, et il les poursuivra, mais je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Exode, particulièrement ces quelques versets, nous montre, si vous voulez, les deux aspects de la rédemption que Dieu accomplit pour son peuple. La rédemption, ça signifie simplement un rachat, c'est ça, c'est l'acte de racheter la liberté d'esclave. Du coup, dans le vocabulaire biblique, la rédemption, ça renvoie, ça désigne tout simplement l'acte par lequel Christ rachètent les hommes de leur esclavage du péché. C'est ça que ça veut dire. Vous pouvez penser à ce que Jésus dit en Marc au chapitre 10, verset 45. Il dit, car le Fils de l'homme, en référence à lui-même, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et c'est à ça qu'il fait référence. Il fait référence à la rédemption. Mais il y a deux aspects de la rédemption. Dieu nous rachète de l'esclavage du péché, mais il y a deux sens à cela. Il nous rachète de l'esclavage de la culpabilité du péché et il nous rachète de l'esclavage du pouvoir ou de la domination du péché dans nos vies. Et c'est ce qu'on voit très bien avec ces deux épisodes qu'on a étudiés donc la dernière fois et aujourd'hui, donc la nuit de la Pâque et la traversée du désert. La nuit de la Pâque, Dieu a sauvé Israël de son jugement parce qu'ils étaient coupables devant lui. Au même titre que les Égyptiens, il n'y a pas de bon et de mauvais, on a tous une dette de péché vis-à-vis de Dieu. Et donc les Israélites devaient prendre un agneau, le sacrifier comme prix de leur rançon pour racheter leur premier-né. Et on avait vu que c'était déjà une préfiguration de Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'apôtre Paul nous dit qu'en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Donc ça, c'est le premier aspect. Mais Israël a beau avoir échappé au jugement de Dieu. Ils ont beau ne plus être coupables devant Dieu, ne plus avoir de culpabilité vis-à-vis de lui, ils sont toujours sous la domination du Pharaon, ils sont toujours à sa portée. Regardez le verset 5, encore une fois. On annonça au roi d'Égypte, verset 5, que le peuple avait pris la fuite. Alors les sentiments du pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant partir Israël, dont nous n'aurons plus les services? C'est une belle manière de le dire, mais on a l'impression qu'il parle de ses collègues de bureau, ou de ses employés, de ses services. Mais c'est ses esclaves. Il faut juste qu'on se rappelle tout ce qui est venu avant. Les Israélites qui devaient fabriquer des briques, qui mouraient sur les chantiers sous les coups des Égyptiens. Et donc voilà les esclavagistes, l'ancien maître Pharaon, qui se lance à la poursuite du peuple d'Israël. Je vais les prendre, je vais les ramener ou les mettre à mort. Mais il ne se rend pas compte qu'il est en train, que par là même, il se met lui-même échec et mat. Donc Dieu sauve Israël de son jugement la nuit de la Pâque. Ici, il sauve Israël au travers de son jugement, en les faisant passer au travers de la mer Rouge, qui referme sur le pharaon pour briser le pharaon. Il les libère de l'esclavage, de la domination de leur ancien maître. C'est de ça dont il est question dans ce passage. Et cet aspect-là, donc ce deuxième aspect de la rédemption, là encore, c'est un modèle, c'est un paradigme de notre rédemption. Il y a une vérité biblique que, en tant que chrétien, on a tendance à oublier, qui est que, oui, Christ est mort pour nous, pour nous obtenir le pardon des péchés, mais nous sommes morts avec lui. C'est cette vérité-là qu'on a tendance à oublier. C'est ce que Paul nous rappelle en Romains 6. Écoutez bien ce qu'il dit, parce que c'est vraiment... Je vous lis simplement quelques versets en Romains 6, et vous allez voir qu'il fait des liens, Paul, avec cette histoire de la sortie d'Égypte et notre situation à nous. Nous avons donc été ensevelis avec Christ dans la mort par le baptême. Par le baptême, c'est intéressant. Rappelez-vous, la traversée de la mer Rouge, c'est un baptême. C'est ce que Paul dit ailleurs. Nous avons donc été ensevelis avec Christ dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Notre vieille nature a été crucifiée avec Christ, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on se considère vraiment. Non plus esclaves du péché, mais mort au péché. Est-ce que c'est comme ça que vous vous considérez? Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de péché en nous. Ça ne signifie pas non plus qu'on n'a plus parfois le désir de pécher. Ça ne signifie pas non plus que le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Ça ne signifie rien de tout ça, non. Mais ça signifie que nous n'avons plus à lui obéir. Le péché est mort pour nous. Il a été détruit. Est-ce qu'il vous arrive de baisser les bras par rapport à certains péchés qui sont peut-être récurrents dans votre vie? Je ne sais pas si vous réfléchissez à la semaine qui s'est écoulée, vous êtes sûrement, comme moi, mis en colère par rapport à quelque chose. Vous saviez que ce n'était pas juste, mais vous êtes emporté, encore une fois. Ou peut-être que vous avez recommencé à chercher votre réconfort ailleurs qu'en Christ. Ça peut être dans la nourriture, ça peut être dans le divertissement, en perdant du temps sur Internet, ça peut être dans plein de choses. Ou peut-être que vous avez simplement recommencé à avoir des mauvaises pensées vis-à-vis d'une personne. Est-ce qu'il vous arrive de retomber dans les mêmes péchés et de vous dire, mais et finalement d'être assez fataliste, de vous dire, mais à quoi bon? C'est plus fort que moi. Dieu nous dit dans sa parole, c'est pas explicite dans ce passage-là, mais quand on lit l'ensemble de la Bible, on comprend que c'est de ça dont ce passage nous parle. Dieu nous dit que nous ne sommes plus sous la domination. Si nous sommes en Christ, nous ne sommes plus sous la domination du péché. Le péché est mort pour nous. Malheureusement, je pense que notre attitude vis-à-vis du péché ressemble bien souvent à celle des Israélites lorsqu'ils voient leur ancien maître qui approche, le pharaon qui vient avec ses armées, lorsqu'ils voient leur ancien maître qu'ils ont tenu dans l'esclavage approcher. Regardez quelle est leur attitude aux Israélites, verset 10. Le pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que tu nous as amenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Et c'est pas seulement là qu'ils disent quelque chose du style. Même une fois qu'ils ont traversé la mer, ils disent la même chose. Je vous lis simplement ce qu'ils disent au chapitre 16. Ils sont dans le désert, ils s'adressent à Moïse et Aaron et ils disent « Que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande et que nous mangeons du pain à satiété ?» Voilà ce qu'ils disent. Ils veulent redevenir esclaves. En tout cas, ils se considèrent toujours comme tels. Et dans ce sens-là, notre attitude, malheureusement, est bien souvent assez similaire. Martin Lloyd-Jones, qui était ce grand prédicateur anglais du deuxième moitié du XXe siècle, il utilise une illustration juste pour nous faire comprendre ce qui est en train de se passer ici avec les Israélites et ce qui nous arrive à nous aussi parfois vis-à-vis du péché. Il dit, prenez le cas des esclaves noirs aux États-Unis il y a à peu près 200 ans. Ils étaient dans une situation d'esclavage total. Ils pouvaient être maltraités, ils pouvaient être frappés, violés, mis à mort. C'était une situation terrible. Et puis, il y a eu la guerre civile. Et après la guerre civile, et parce que le Nord a vaincu le Sud, l'esclavage a été aboli. Mais qu'est-ce qu'on a observé à ce moment-là? Tous les esclaves, hommes, femmes, jeunes et vieux, étaient libres. Mais ceux qui avaient vécu une longue vie dans la servitude et qui s'étaient habitués à ça, ont eu énormément de peine à réaliser quel était leur nouveau statut, à s'adapter à leur nouveau statut. Ils avaient entendu que l'esclavage était aboli. Objectivement, ils étaient libres. Mais ils ont eu énormément de peine à le réaliser, subjectivement, au fond d'eux-mêmes. Et à chaque fois qu'ils voyaient leur ancien maître ou un blanc s'approcher, ils se mettaient à trembler, on comprend. Ils avaient peur qu'ils allaient de nouveau être maltraités, vendus, mis à mort, etc. Et Martin Lloyd-Jones dit ceci, écoutez bien. Il dit « Vous pouvez toujours être un esclave d'un point de vue expérientiel, même si vous n'êtes plus esclave d'un point de vue légal. Mais peu importe ce que vous ressentez, peu importe quelle est votre expérience, Dieu nous dit dans sa parole que si nous sommes en Christ, nous ne sommes plus en Adam. Nous ne sommes plus sous le règne et la domination du péché. Et si je tombe dans le péché, comme il m'arrive de le faire, c'est simplement parce que je ne réalise pas qui je suis. » Est-ce que vous réalisez qui vous êtes? Esclave de la justice, nous dit Paul. Esclave de Christ. Vous avez changé de maître. Est-ce que vous le reconnaissez? Que vous n'avez plus à obéir au péché, il est mort pour vous. Moi, ce que je trouve vraiment fascinant dans cette remarque de Martin Lloyd-Jones, c'est qu'il nous dit que on peut ne plus être esclave d'un point de vue légal, c'est-à-dire objectivement, mais toujours être un esclave dans notre expérience, subjectivement. C'est-à-dire qu'on peut toujours se comporter comme si on était esclave du péché. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait au quotidien qu'on va se remettre sous la domination du péché, de ce maître tyrannique qui nous maltraite, parce que c'est ça que le péché nous fait, il nous maltraite, il nous laisse dans l'amertume, lorsqu'on a piqué une colère, on sait que c'est pas juste, on devrait aller demander pardon, mais on veut pas, il nous laisse dans la frustration quand les choses auprès desquelles on a cherché notre réconfort plutôt qu'en Christ ne nous satisfont tout simplement pas, il nous laisse un goût amer, on se sent coupable. Pourquoi est-ce qu'on continue à vivre comme si on était esclave du péché? Paul l'explique très clairement dans la suite de ce que je vous ai lu, en Romains 6 et 7. Il dit que c'est tout simplement parce qu'on perd de vue la grâce de Dieu et qu'on vit comme si on était toujours sous la loi. Écoutez bien ce qu'il dit, il dit ceci. Le péché ne dominera plus sur vous. Pourquoi? Car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Mais le problème, c'est qu'on oublie ça. Et qu'on oublie qu'on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce, et qu'on continuer à vivre, non pas selon le principe de la grâce, c'est-à-dire de se dire que tout ce que j'ai, c'est la faveur de Dieu pour moi, gratuit. Dieu me donne le salut gratuitement, il me donne chaque chose, jour après jour, par grâce, par pure grâce, j'ai rien à faire pour mériter ça. On vit pas selon ce principe de la grâce, mais on vit selon le principe de la loi, des œuvres, où on a simplement l'impression qu'on doit mériter les choses de la main de Dieu, on doit être à la hauteur. Je vous donne juste deux domaines pour vous montrer ce que je veux dire, quelle est la différence entre ces deux manières de vivre, le principe de la grâce et des œuvres. Si on prend le domaine, premièrement, de la souffrance et des épreuves, comment est-ce que vous réagissez quand tout va mal dans votre vie? C'est-à-dire, vous avez eu un échec au travail, ou un imprévu grave, ou quelqu'un vous a fait vraiment une critique assez directe, assez violente. Comment est-ce que vous réagissez à ces choses-là? Selon le principe de la grâce, on prend ces choses de la main de Dieu et on les lui apporte dans la prière, de manière paisible, en sachant que ça vient de lui. Mais quand on est selon le principe des œuvres, et malheureusement c'est comme ça qu'on opère la plupart du temps, on explose. Parce que soit on sait que c'est de notre faute, enfin qu'on s'est attiré nous-mêmes ce mal, et on est furieux contre nous, ou alors, et c'est bien plus souvent le cas, on est furieux contre Dieu, parce qu'on estime qu'on mérite mieux. Le péché se sert de cette tendance qui est en nous pour nous amener à la révolte contre Dieu. Un deuxième domaine, si on prend le domaine de la prière, à quoi ressemble votre vie de prière? Je demande ça parce que notre vie de prière en dit généralement assez long sur si on vit selon le principe de la grâce ou sous la domination du péché, selon le principe des œuvres. Est-ce que nos prières ressemblent plus à une longue liste d'énumérations, de requêtes et de demandes à Dieu? Ou est-ce que c'est, j'ai envie de dire, simplement une louange spontanée de reconnaissance envers Dieu qui est notre Père, qui nous donne toutes choses? Quoi est-ce que le ressemble de prière? Je pense que, et je dis ça pour moi en premier, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que notre vie de prière est finalement assez médiocre, jusqu'à ce que les choses se compliquent, et là tout d'un coup on devient très zélé pour la prière, jusqu'à ce que les choses s'arrangent de nouveau, et ça montre bien qu'en fait on prie simplement par devoir, ou par culpabilité, ou parce qu'on a envie d'avoir le contrôle sur notre vie, mais c'est pas vraiment parce qu'on a envie d'être proche de notre Père, d'apprendre à le connaître, de grandir dans l'intimité avec lui, etc. Donc, vous voyez, deux domaines rapidement, mais dans tout ça, le péché se sert de la loi, ou de ce principe qui est là, ancré au plus profond de nous, qu'on cherche à mériter notre salut, à être à la hauteur, pour rendre Dieu redevable envers moi. Il se sert de ça pour nous asservir, et nous amener à nous révolter contre Dieu, à être furieux à l'égard de Dieu, ou à nous servir de Dieu par nos prières. Et c'est seulement lorsqu'on se détache radicalement de cette manière de fonctionner, cette justice de la loi, c'est une justice de soi en fait. C'est seulement quand on se détache de soi que la domination du péché peut réellement être brisée dans notre vie. Et c'est pour ça que j'en viens maintenant à mon deuxième point qui sera plus court, je vous rassure, mais parce que la seule manière de nous détacher radicalement d'une justice des œuvres, c'est quoi? C'est de contempler la grâce de Dieu. C'est de nous prêcher la grâce à nous-mêmes. C'est qu'elle soit centrale dans notre vie. C'est ce que Paul nous dit dans la suite toujours de ce passage en Romains. Il dit que c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous a libérés de la loi du péché et de la mort. C'est que la grâce de Christ qui peut nous libérer de ce pouvoir de domination du péché. Donc on a vu, premièrement, l'esclavage hors duquel Dieu nous a appelés par grâce. Deuxièmement, la grâce par laquelle Dieu nous a appelés hors de l'esclavage. Et je vous invite à ce qu'on revienne rapidement aux Israélites qui sont au bord de la mer Rouge. On les a laissés là pour un moment. Parce qu'il y a un truc qui est vraiment frappant au tout début du passage que j'ai lu tout à l'heure, c'est chapitre 13, verset 17. Regardez avec moi. Chapitre 13, verset 17. « Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert vers la mer des joncs. Les Israélites montèrent tout équipés hors du pays d'Égypte. Il dit qu'ils sont tout équipés, mais il ne dit pas qu'ils sont tout équipés en fait pour quelque chose de bien précis. C'est ce que d'autres traductions nous disent beaucoup plus clairement. Elles traduisent mieux en disant qu'elles montaient, que les Israélites montèrent en armes ou en ordre de bataille. Et ça fait écho à quelque chose que à l'ordre que Dieu avait donné à Moïse et à Aaron au chapitre 6. Vous vous rappelez certainement pas de ça, mais Dieu avait dit à Moïse et à Aaron, faites sortir du pays d'Égypte les Israélites en troupes armées. Il semble que les Israélites étaient prêts pour la guerre. Mais Dieu leur fait faire un détour pour éviter quoi? Justement, la guerre. Il leur fait faire un détour pour éviter la guerre. Et il les mène dans une impasse, en tout cas c'est comme ça qu'ils se considèrent, piégés, au pied du mur, sans force. Par eux-mêmes, ils sont perdus, comme nous sommes nous-mêmes perdus, seuls face au péché. Mais écoutez ce que Moïse dit aux Israélites qui voient leur ancien maître approcher, qui pour les asservir, pour les mettre à mort. Voilà ce que Moïse dit aux Israélites au verset 13, chapitre 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place, et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Autrement dit, n'intervenez pas. L'Éternel combattra pour vous, et vous n'intervenez pas. Et effectivement, ils n'auront pas à intervenir, en rien. Dieu va faire souffler un vent violent pour séparer les eaux et pour faire émerger la terre sèche. Regardez le verset 21. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Il y a deux choses que j'aimerais vous faire remarquer dans ce verset ici, ce verset 21. Premièrement, c'est clairement un miracle que Dieu accomplit. Moïse étend la main, les eaux se séparent. C'est clairement un miracle. Mais la cause du miracle, c'est une cause finalement tout à fait naturelle. C'est un violent vent d'est qui souffle. Et c'est vraiment intéressant parce que on a tendance aujourd'hui à tout expliquer en termes de phénomènes purement naturels au détriment du miraculeux. Mais dans la Bible, on n'a jamais une coupure comme ça, une rupture entre on pourrait dire le naturel et le surnaturel. Ça, c'est une idée tout à fait moderne qui date de l'époque des Lumières et qui est tout à fait discutable. Alors, bien sûr, Dieu n'est pas limité par les lois de la nature, parce que c'est lui qui les a déterminées. Mais Dieu se sert des lois de la nature pour agir de manière ordinaire, tous les jours, par sa providence, ou de manière extraordinaire ici. Et ça, c'est la première chose qu'il faut voir. C'est finalement une cause assez naturelle, ce qui se passe ici. Mais deuxièmement, au-delà de ça, en hébreu, vous le savez peut-être, vous avez un même mot, rouar, qui est utilisé pour traduire, qui est traduit de deux manières en français, soit par vent, comme un violent vent d'est ici, ou par esprit, comme l'esprit de Dieu. Et c'est très intéressant quand on lit le cantique au chapitre 15. Si vous regardez au chapitre 15 avec moi, qui est en fait, ce cantique, c'est en fait un commentaire poétique du chapitre 14. Vous avez le chapitre 14 qui nous raconte l'histoire. Chapitre 15, c'est une sorte de commentaire poétique, et c'est très intéressant de voir comment Moïse interprète ce qui s'est produit. Regardez le chapitre 15, verset 9. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, je m'en repaîtrai, je tirerai l'épée, ma main s'en emparera. Tu as soufflé de ton haleine, dit à Dieu, tu as soufflé de ton haleine, c'est ce même mot, rouar, tu as soufflé de ton vent, de ton esprit. La mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans des eaux puissantes. Donc on prend un peu de recul, on se dit c'est le rouar de Dieu, son esprit, qui a soufflé pour séparer les eaux, pour que la terre sèche émerge. Et là, il y a peut-être des échos qui commencent à sonner dans votre tête. Parce que ça nous rappelle plein de choses dans l'histoire de la Bible. En Genèse 1 tout d'abord. Vous vous rappelez en Genèse 1, au commencement, la terre était informe et vide. C'était le chaos des eaux. Mais le rouar, l'esprit de Dieu, planait au-dessus des eaux. Et par un mot, En Genèse 1, Dieu dompte les forces chaotiques des eaux, vous vous rappelez? Il les sépare, la partie sèche émerge, et on lit en Genèse 1, Dieu appela terre la partie sèche et mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Et à partir de là, à partir de cette terre sèche, il crée un sanctuaire qui est le jardin d'Éden pour que les êtres humains puissent vivre avec lui, dans son intimité, dans son amour. Mais non, c'est la suite. Avec la chute d'Adam et Ève, le chaos est revenu. Le péché est entré dans le monde et avec le péché, la mort. Les hommes sont attirés le déluge de Dieu sur eux. Hein? Genèse 6 à 9, vous vous rappelez? À nouveau, les eaux chaotiques qui reviennent sur le monde. Dieu permet, si vous voulez, par son déluge, aux forces chaotiques des eaux qu'il avait domptées au commencement, de défaire la création, de décréer le monde, mais pour un temps seulement, 40 jours. Parce que vous vous rappelez, Dieu sauve Noé et sa famille dans une arche, et après 40 jours de pluie, qu'est-ce qu'on lit? Genèse 8, Dieu fit passer son ruach, son esprit sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Et il crée une terre nouvelle pour que, à nouveau, l'humanité puisse vivre avec lui dans la même présence. Donc on a la même chose qui se répète. Mais Noé chute comme Adam avant lui. Et je vous passe les détails, on arrive à la suite de l'histoire. C'est Moïse qui, je vous avais dit il y a plusieurs semaines maintenant, mais est considéré dans l'Exode comme une sorte de nouveau Noé. Hein, il est sauvé à sa naissance des eaux du Nil en étant placé dans une arche. Et il sauve ici sa famille des eaux de la mer morte que l'Esprit a soufflé de côté. Pour les faire entrer dans une nouvelle terre, qui est la terre promise. Et donc nous, on doit aller plus loin tout de suite, en entendant ça, on doit aller plus loin et puis se dire, et penser à leur entrée dans la terre promise, justement. Et comment est-ce qu'ils sont entrés dans la terre promise? En traversant le Jourdain. Et là encore, Dieu écarte les eaux, il dompte les forces chaotiques de la mer, pour permettre à son peuple d'entrer dans une nouvelle terre. Un nouveau sanctuaire, un nouveau jardin d'Éden où il va pouvoir vivre avec eux. C'est là que Israël va construire son temple et Dieu va faire sa demeure parmi eux. Mais là encore, Israël se révolte, Dieu les envoie en exil et c'est la même histoire qui se répète. Adam chute, Adam a échoué, Noé a échoué, Israël a échoué, mais Dieu, dans sa grâce, envoie Jésus-Christ. Et vous rappelez ce que je vous ai lu tout à l'heure dans l'évangile selon Matthieu, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et que fait Jésus au début de son ministère? Jésus est en train en fait de récapituler toute l'histoire qui l'a précédée, toute l'histoire d'Israël. Et que fait Jésus au début de son ministère? Vous vous rappelez comment est-ce qu'il commence son ministère? Il va au désert et il retraverse le Jourdain, il se fait baptiser dans le Jourdain. Et on lit en Matthieu chapitre 3 verset 16, aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit le ruach, l'Esprit de Dieu, descendre sur lui comme une colombe et venir sur lui. Une voix vint du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je sais que c'était un peu long le panorama de la vie comme ça. Mais simplement pour vous montrer que la Bible ne nous raconte pas plusieurs histoires similaires, la Bible nous raconte une grande histoire de plein de manières similaires. Et c'est l'histoire de notre rédemption accomplie par Christ. Toutes ces petites histoires, elles nous parlent de la grande rédemption. Que Dieu a intervenu une fois dans l'histoire, en Christ, pour mettre un terme au chaos, pour dominer une fois pour toutes le péché, briser le pouvoir asservissant du péché une fois pour toutes. Qu'il est venu nous chercher, nous ramener à lui pour vivre cette vie, cette vie dans sa présence. Il a brisé les chaînes du péché. Par son esprit, il nous a unis à Christ dans sa mort, dans sa résurrection. Il nous a baptisés dans sa mort et sa résurrection. C'est lui qui a tout fait. C'est son esprit qui a soufflé dans nos vies pour nous attirer à lui. Le salut, c'est son œuvre, l'œuvre de son esprit dans nos vies. Du début à la fin. Tout ce qu'il nous demande, c'est la repentance et la foi. Rappelez-vous de ces paroles de Christ, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, ou il a traversé de la mort à la vie, comme les Israélites ont traversé d'une rive à l'autre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est par la foi que les Israélites ont traversé la mer, et comme une terre sèche, alors que les Égyptiens ont été engloutis. Ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que si c'est par la foi qu'ils ont traversé, ça nous montre bien qu'ils n'ont pas construit un pont pour passer d'une rive à l'autre. Hein, ils ont simplement traversé à pied sur la terre sèche, dans la mer. Ils n'ont pas construit un pont comme toutes les religions humaines nous disent de faire, c'est-à-dire de, par nos efforts, par nos mérites, construire un pont au-dessus du gouffre qui nous sépare de Dieu. Non, ils se sont confiés en Dieu et dans celui qu'il avait envoyé pour les sauver. Moïse, Dieu a tout fait pour leur salut. Alors vous dites peut-être juste, et j'arrive gentiment au bout ici, mais vous dites peut-être, c'est bien joli tout ça, mais ils ont quand même dû faire quelque chose. Ah, ils ont quand même dû marcher au travers de la mer. Ils ont dû avoir la foi. Est-ce que c'est pas quelque chose, ça? Est-ce qu'ils n'ont pas dû faire quelque chose? Et c'est important de se poser cette question parce qu'il vous arrive peut-être de vous dire, lorsque vous regardez à votre vie, de finalement d'être pris de certains doutes, parce que vous vous dites, mais surtout si vous retombez dans les mêmes péchés, comme je le disais tout à l'heure, on retombe dans les mêmes choses et on se sent écrasé par cette culpabilité-là. On peut en venir à se dire, mais est-ce que vraiment j'ai traversé de la mort à la vie? Est-ce que ma foi est réelle? Est-ce qu'elle est suffisante? Et je vous dirais juste de réfléchir à ça, essayez de vous imaginer la scène. L'Israélite n'était pas passif, effectivement, dans leur salut. Ils ne le sont pas non plus, mais ce n'est pas leur foi qui les a sauvés. Essayez de vous imaginer la scène. Les Israélites qui traversent avec des murs d'eau de chaque côté, des murailles d'eau de chaque côté, c'est ce qui nous est dit ici. Moi, je pense qu'il y en avait certains d'entre eux qui devaient être plutôt impressionnés, qui devaient passer ici, passer à travers la mer et regarder les murs d'eau et se dire, ouais, c'est pas mal. Mais il y en a sûrement d'autres qui passaient et qui étaient en train de se dire, oh là là, ça va tomber, on va tous mourir, on va tous mourir, et qui passaient le plus vite possible. Autrement dit, il y avait différentes qualités de foi au sein du peuple d'Israël. Et donc, ce n'est pas la qualité de leur foi qui les a sauvés, c'est l'objet de leur foi. Alors, je ne vais pas donner de fausses assurances ici en disant ça, parce que la Bible nous dit qu'il y a des faux types de foi. Que ça ne suffit pas, par exemple, de croire intellectuellement que la Bible dit vrai, il faut croire que c'est vrai pour nous. Hein, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête, que ce n'est pas simplement une sorte de compréhension intellectuelle des vérités de la Bible, de l'Évangile qu'il nous faut pour être sauvés, mais c'est de croire que notre seul espoir devant Dieu, d'échapper au jugement, d'être réconcilié avec Dieu, notre seul espoir, c'est en Christ. On ne peut rien faire, rien. Mais ce qui sauve, ce n'est pas la qualité de la foi, c'est l'objet de la foi. Regardez le verset 31 encore une fois. Chapitre 14, verset 31. Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, ils crurent en l'Éternel et en Moïse son serviteur. C'est ça l'objet de la foi. L'Éternel et son serviteur. Le serviteur de l'Éternel, on a envie de dire. Celui, Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, dont Moïse n'était que finalement qu'une préfiguration ici. J'ai envie de conclure juste en disant, et alors? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et alors? Et la réponse nous est donnée au chapitre 15, verset 1. Et alors? Alors, Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. Il est devenu mon salut. Et alors? Alors, Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique à l'Éternel. La louange, c'est ça qui est le but de notre rédemption, en fait. On pourrait faire tout le tour de tous ces premiers chapitres de l'Exode et voir comme Dieu répète à Moïse plein de fois que quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous irez m'adorer sur cette montagne. C'est ça le but. Dieu rachète son peuple de l'esclavage pour que nous l'adorions. C'est ça le sens de notre vie. Dieu nous a créés pour lui-même. Alors, bien sûr, la louange est une notion assez large. La musique, le chant, c'est qu'une partie de notre louange. La louange, c'est toute une orientation de notre vie. Vivre une vie vécue selon ses termes. Mais je trouve vraiment frappant de voir qu'à peine sortis de la mer ici, Moïse et l'Israélite chantent un cantique à la gloire de Dieu. Et ça me fait penser à cette chose que j'ai entendue dernièrement. Quelqu'un m'a rappelé qu'en fait, dans le Nouveau Testament, quelle est la première marque de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit? Vous vous rappelez peut-être en Éphésiens, la première marque de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est qu'ils s'entretiennent, que de personnes qui sont remplies de l'Esprit, c'est qu'elles s'entretiennent par des psaumes, des hymnes, des cantiques, qu'elles chantent et qu'elles célèbrent le Seigneur de tout leur cœur. Et c'est pour ça que j'aimerais terminer juste en vous demandant de venir voir avec moi dans l'Apocalypse au chapitre 15. Apocalypse chapitre 15, où on trouve une preuve supplémentaire, s'il en fallait une preuve supplémentaire de ce que l'Exode n'est qu'un paradigme, un modèle de ce salut accompli par Christ pour nous. Apocalypse 15, verset 2. C'est Jean qui parle d'une vision de la fin. Et il dit, et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, c'est-à-dire les croyants qui ont vaincu en Christ le mal, le péché, debout sur la mer de cristal, ils tiennent les harpes de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de l'Éternel, et le cantique de l'agneau. Et en fait, c'est pas tout à fait exact, le S, c'est une explication de ce qui vient avant, donc ils chantent le cantique de Moïse, qui est le cantique de l'agneau. Autrement dit, lorsque les Israélites chantaient le cantique de Moïse sur les rives de la mer Rouge, ils étaient déjà en train de chanter la gloire de l'agneau. Et lorsque nous chantons la gloire de l'agneau, on est en train de joindre nos voix à celles des Israélites. Ils chantent le cantique de Moïse, qui est le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, Roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que ta justice a été manifestée. Amen. Je vous invite à ce que nous fassions exactement ça, qu'on chante un cantique à la gloire de l'agneau. C'est le numéro 70 dans l'âtre la gloire. Numéro 70, et vous pouvez vous lever pour le chant.